que l'on voit dans les victimes qui arrivent sur le 3018, c'est des jeunes filles épuisées, avec un sentiment d'insécurité qui est énorme.
Aujourd'hui, je peux pas, c'est trop dur, mais
Ce qu'on propose dans un premier temps, ça peut paraître peu de choses, mais c'est essentiel pour que les victimes aillent mieux, c'est une écoute. On va pouvoir raconter tout ce qu'on a fait sans être jugé, et ça, c'est extrêmement important. Et les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est des solutions, pas des leçons de morale.
Ces jeunes femmes, un jour, se sont retrouvées nues sur les réseaux sociaux, pire, sur des sites porno. Un homme leur a volé un morceau de leur intimité, de leur sexualité, et en a fait une arme de destruction psychique. On appelle cela du revenge porn, des photos, des vidéos postées pour se venger. Cela va de la mauvaise blague de cours de récré à la plus sophistiquée des perversités. On n'imagine pas les ravages que cela provoque dans une vie, le calvaire face à l'incontrôlable viralité de ces contenus sur le web, la non-réponse de la justice française, le courage, oui, le courage de celles et ceux qui surmontent la honte pour témoigner.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Quand je lui ai annoncé que je voulais qu'on se sépare, il m'a dit mais t'as pas le choix, tu peux pas partir. Et là, il me sort la carte des vidéos. Tu vas voir quoi, je vais diffuser tout ça et donc là c'est le plus gros flip de ma vie évidemment. Je me dis mais c'est une catastrophe s'il fait ça. J'en crèverai quoi. Et puis, il a envoyé une photo à 2-3 personnes autour de moi, et en me disant, voilà, tu vois, je suis capable de le faire, quoi.
L'immense courage de Sophia. Sophia, qui est donc une des protagonistes du documentaire dont on va parler ce matin, et surtout qui a inspiré la fiction qui va être d'abord diffusée sur France 2 en prime time, Mise à nu, jouée par Julie Debonat et Julien de Boisselier. Boisselier, ah, je vais y arriver. Réalisée par Didier Vivelle. Moi, je reçois Marie-Christine Gambard et Émilie Graal. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Sonia.
Vous avez coécrit ce documentaire qui s'intitule Ennemi intime et qui sera diffusé demain soir à 22h45, après la fiction précisément. On parle ensemble du revenge porn, on parle ensemble de ces héroïnes et de ce héros qui ont accepté de parler face à votre caméra. Car c'est vraiment la première question quand on est documentariste, c'est-à-dire comment convaincre de parler, de faire face à une caméra, de s'exposer médiatiquement, quand précisément c'est cela dont on souffre, d'avoir été exposé médiatiquement. Marie-Christine Gambard.
Alors je pense qu'Émilie vous racontera un petit peu comment le casting s'est opéré, parce que ça a été, je pense, l'étape la plus délicate et la plus difficile. Ensuite, moi, mon travail, puisque je m'occupe, effectivement, j'ai réalisé ce film, oui. Ça a été de les convaincre, alors que leur image a été à ce point bafouée, qu'ils ont été humiliés, d'accepter, en fait, d'être filmés à nouveau et de leur dire, voilà, ça va vous aider. Ce film, enfin, est là pour vous aider à restaurer un petit peu cette image qui a été abîmée. Et je pense que tous, s'ils ont finalement accepté, même si la présence d'une caméra a loin d'être, ça n'a pas été simple.
Non.
Du tout. Il a fallu sans cesse les rassurer.
Certains témoignent à visage découvert, oui. D'autres restent dans l'ombre.
Bien sûr. Mais même tout en restant
et
dans l'ombre.
Et cette ombre dit la honte et le poids qui pèse sur leur identité.
Ce qu'il faut voir, mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard, c'est qu'aujourd'hui, quand on tape encore leur nom, même si l'histoire a eu lieu il y a déjà 2-3 ans, il y a encore des vidéos et des saloperies qui apparaissent sur Internet, ils veulent à tout prix se faire oublier. Donc l'idée, c'est bien évidemment pas que ceux qui ne connaissent pas ce qui leur est arrivé, je pense à leur employeur, peut-être certaines personnes de leur famille, découvrent ça, en fait, à la télévision.
Ouais.
Mais si tous ont accepté de témoigner, enfin, je pense qu'Émilie vous le dira peut-être mieux que moi, c'est parce qu'ils ont tous envie que les choses changent. Il faut que ça bouge, il faut que la honte et la peur changent de camp. Ça, je crois que c'est vraiment le message du film.
Je vous fais écouter Samira, hein, précisément, que vous filmez dans le noir ou de dos ou en silhouette.
Je me dis, bah, je vais quand même me googoliser. Et là, je tombe sur des dizaines et des dizaines de liens avec mon prénom, mon nom, ma ville, mon arrondissement et des mentions comme quoi que je suis une pute et que je reçois à domicile.
Émilie Graal, vous avez mené cette enquête. Oui, comment les convaincre de parler, de témoigner ?
Alors, je pense que la première chose, avant de les convaincre, c'était de les trouver. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de porno-divulgation chez les jeunes.
Et c'est nous, le terme en français, porno-divulgation, je l'ignorais.
Exactement, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, les associations militent pour qu'on parle de porno-divulgation plutôt que de revenge porn. Parce que dans le caractère de revenge porn, il y a une notion de vengeance. Mm-hmm. Et donc une notion de culpabilité, de forme de culpabilité, mm-hmm. des victimes. Donc ça, c'est très important.
C'est ça, c'est tu m'as fait quelque chose, je te fais quelque chose, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est l'idée que au départ la victime a elle-même fait du mal.
Exactement. Donc voilà, donc on se bat pour parler de porno-divulgation et on parle donc beaucoup de porno-divulgation chez les jeunes. Donc en effet, ils sont les premiers concernés parce que les premiers utilisateurs de réseaux sociaux évidemment, mais ils sont loin d'être les seules victimes. Et les victimes majeures sont très nombreuses. Et quand on parle de victimes majeures, c'est vraiment de 18 à 75 ans. Ce phénomène touche tout le monde. Donc, il a fallu...
Ce phénomène touche essentiellement des femmes, Émilie Graal. Et pourtant, vous avez aussi convaincu un homme homosexuel de témoigner.
C'est vrai, 15% des hommes homosexuels sont touchés par ce phénomène. Mmh. C'est très répandu et ça l'est de plus en plus. Et on tenait vraiment à... En donnant la parole à un homme, on tenait vraiment à montrer en fait la grande diversité des victimes. Ça peut toucher tout le monde et ça, il faut vraiment insister là-dessus. Ce qui a été compliqué en fait pour trouver ces victimes, c'est d'abord le fait qu'il y a très très peu d'associations et d'institutions qui accompagnent les victimes majeures. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les jeunes, notamment le 30-18 e-enfance,
qui
fait un travail formidable. Mais pour finalement, en fait, moi, il y a un an, quand j'ai commencé mon enquête, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est me mettre dans la peau d'une victime et de voir en fait quels sont les recours qui sont possibles et où est-ce que je peux trouver de l'aide. Et il y a un an, il n'y avait rien. Il y avait vraiment très très peu de choses. Donc les choses évoluent dans le bon sens. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de Sibarso, Magali Chavanne, qui nous a beaucoup aidés. Mais donc... Voilà, j'ai dû me tourner vers les avocats. J'ai contacté énormément de cabinets d'avocats et certains, dont Delphine Meillet, Avi Bitton, qui sont dans le film.
Alors on va parler justement de ce combat vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la police, parce que ça aussi c'est des séquences édifiantes du film. D'abord, on va parler de ce que c'est que la porno-divulgation et de la vaste étendue de ce que ça recouvre, Marie-Christine Gambard. Je le disais, ça va de la blague de lycée, du trophée, de regarder Manana à moi, regardez les seins, regardez les fesses qu'elle a, regardez ce qu'elle sait faire, regardez les exploits qu'elle accomplit dans notre intimité. Ça va de la blague de lycée à la pire des perversités. C'est-à-dire que là, vous dressez en creux des portraits de gens incroyablement calculateurs et manipulateurs. C'est-à-dire que on a une image, Marie-Christine Gambard, du revenge porn comme une sorte d'acte pulsionnel. Elle m'a fait du mal, je me venge. Non, là, vous racontez des choses très calculées.
Ah bah oui, c'est vrai que les victimes qui ont accepté de nous apporter leur témoignage ont eu affaire à des agresseurs absolument incroyables. Mais ce qui est aussi, je pense, qui est important dans le casting, entre guillemets, de nos personnages, c'est d'avoir quand même des histoires variées. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire presque les agresseurs de Sofia et de Samira ont des points communs. Mmh. Un petit peu, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'au début du film, en fait, j'ai monté un petit peu en parallèle leurs deux témoignages. Il y a quelque chose qui se répond, c'est en gros, voilà, on est allé voir ailleurs, mais nous on a le droit. Toi, tu ne peux pas nous quitter. Et si tu nous quittes, eh ben voilà, on va balancer des vidéos sur les réseaux que l'on a fait sans ton consentement. Ou pas.
Et tout au long de leur histoire, voilà. En réalité, elles ont été filmées, elles ont été photographiées dans leurs ébats, dans leurs intimités, tout leur a été volé.
Et il y en a d'autres, que je pense à Charlotte, notamment, puisque moi, il se trouve qu'avec Émilie, on a réussi à voir les photos des agresseurs. Sincèrement, à la limite, la photo a été prise, ils sortaient de la messe le dimanche, quoi. C'est monsieur propre, c'est monsieur tout le monde. C'est incroyable, quoi. Et lui, il l'a quand même filmé pendant les 2 ans et demi de leur relation. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu qu'il y ait une rupture. En fait, c'est son grand jeu. Il dresse des tableaux complètement tordus et il diffuse les images sur des sites pornographiques. D'ailleurs, Charlotte, c'est le commissariat qui l'a prévenue. Elle n'était pas au courant et les flics lui ont dit « Vous ne pouviez pas vous rendre compte du système qui était mis en place. » Tellement c'était tordu et calculé. Et c'est vrai, quand on l'a rencontré la première fois, mais la première question que je lui ai posée, je lui ai dit « Mais tu t'es jamais rendu compte de rien ?» Elle me dit si, il y avait sa lumière d'ordinateur qui était allumée, quand je lui demandais pourquoi, il me répondait qu'il faisait des téléchargements, il avait tout le temps son portable à la main. Je prenais ma douche, il était là avec son portable, mais jamais, jamais, elle aurait pu imaginer une seule seconde qu'il était en train de capter des images pour les diffuser ensuite.
On va écouter David qui porte plainte, et voilà.
En fait, je me suis aperçu que j'arriverais pas à avancer dans ma vie s'il n'était pas puni, si justice ne m'était pas rendue. Parce que cette histoire me bouffait, elle me rongeait de l'intérieur et c'était impossible de passer à autre chose. D'avoir porté plainte, ça a clairement inversé le rapport de force. Je sais que maintenant c'est moi qui serre les crocs et que c'est lui qui va déguster, clairement. Lorsque je le verrai à la barre et que lui me verra, je veux que la honte change de camp et je veux surtout que la peur change de camp.
Émilie Gral, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que les gens que vous avez interviewés, filmés, accompagnés et qui témoignent dans ce documentaire, c'est des gens dont la vie est totalement saccagée. Il y a même une femme absolument incroyable qui est la mère d'une très jeune adolescente qui s'est suicidée. Enfin, elle amène un témoignage d'une dignité absolument incroyable.
Oui, totalement. En fait, je pense que la société se rend pas compte de la gravité de ces actes et du bouleversement que ça peut induire pour les victimes. Il faut savoir que la majorité des personnes qui témoignent aujourd'hui ont à un moment pensé elles aussi au suicide. Ouais. En fait, les victimes rentrent dans une bulle d'isolement, de honte, de culpabilité qui est telle qu'en fait elles ne voient pas l'issue. Il n'y a pas d'issue. Et la grande
Elles ont été aussi, parce que c'est important de le raconter, Marie-Christine Gambard parlait de ces grands manipulateurs qui diffusent sur des sites porno au fur et à mesure d'une relation avec une femme, etc. Les victimes dont on parle ont été aussi attaquées au sein de leur propre famille. C'est-à-dire, il y a tous les clichés de leur intimité qui ont été envoyés à leur père, à leur mère, à leur frère, à leur sœur, à leur cousin. C'est-à-dire, d'abord, ça a commencé par la honte dans la famille.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a la diffusion sur les réseaux sociaux, sur les sites pornographiques, mais il y a aussi des attaques beaucoup plus ciblées.
C'est ça.
Où on envoie directement aux familles, aux proches, aux employeurs. Et finalement, ça commence par là, en fait. Ça commence par briser le cercle proche, briser l'entourage des victimes. Alors, ça arrive de temps en temps et ça arrive aussi que la diffusion soit uniquement sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que la plupart des contenus sont... on accole au contenu le nom, le prénom, parfois même l'adresse, le numéro de téléphone des victimes.
C'était le cas de Samira.
Ce qui était le cas de Samira, exactement, dans le film. Et donc, s'ensuit non seulement... cette honte, cette image dégradée.
Mais une peur, une vraie peur.
Mais une peur, parce qu'il y a des agressions, il y a des insultes, il y a même du harcèlement qui suit en fait la parole.
Avant de parler de la justice, il faut parler de la police. Il faut raconter ce que Sophia a vécu, Marie-Christine Gambard, quand elle a poussé la porte d'un commissariat.
Ça, on avait envie effectivement de le raconter, d'autant plus que dans la fiction, il y a une scène absolument terrible aussi dans le commissariat. C'est-à-dire que Sophia, la première fois, parce qu'elle, faut voir, cette histoire remonte à 8 ans. Ça fait quand même 8 ans qu'elle rame pour obtenir justice suite à ce qu'elle a subi. Et donc, la première fois qu'elle a poussé la porte d'un commissariat, donc elle était accompagnée de Magali, que l'on voit d'ailleurs dans le film, qui aujourd'hui a fondé d'ailleurs l'association Cibarceau suite à ça, venant de Sophia. Et là, elle s'est retrouvée face à des flics qui ricanaient, qui lui disaient nous, on aimerait bien les voir, les vidéos, où est le problème? Il y en a même un qui a trouvé le moyen de la draguer, de lui envoyer son numéro de téléphone.
C'est-à-dire
aucune considération. Mais en même temps, quand on voit ce qui se passe pour les victimes de viol aujourd'hui, comment imaginer une seconde que des gens victimes de porno-divulgation, des femmes victimes de porno-divulgation, soient prises au sérieux? Il y a vraiment toute une formation à faire. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai tenu absolument à ce qu'on filme l'association e-enfance qui fait un travail remarquable, non seulement auprès d'adolescents, mais qui en plus intervient auprès des gendarmes et des policiers pour les former à cette nouvelle forme, je dirais, de cyberharcèlement, enfin très, très précis. Ça me semblait essentiel.
De cyberharcèlement, voire, dit Émilie Gral, une de vos intervenantes qui est avocate, de viol numérique.
De viol numérique, voilà. De viol numérique. Leur dire,
il faut imaginer l'anxiété de ces femmes qui tapent leur nom dans une barre Google et qui découvrent sans cesse des contenus reproduits parce que c'est totalement incontrôlable.
Et puis il faut voir c'était l'année dernière, je dis pas de bêtises, il y a à peu près un an ou un an et demi, il y a quand même eu ce tweet de la police nationale qui a fait scandale, qui induisait enfin je sais pas comment dire, derrière les mots, si vous participez vous-même à des photos ou des vidéos, venez pas vous plaindre derrière. Et là, il y a eu un bronca un peu des associations, donc ils ont retiré leur tweet, ils ont présenté leurs excuses, mais je pense que c'est essentiel que le message passe. Une femme a le droit, dans le cadre de jeux amoureux, d'accepter de se faire filmer, photographier, c'est pas pour autant qu'elle a donné son consentement pour que ce soit diffusé sur les réseaux.
C'est ça.
Et ça, je pense que c'était important aussi à travers les victimes dont on recueillait le témoignage, d'avoir ce cas de figure de femmes qui sciemment, effectivement, ont participé, et Sophia le dit très bien, finalement elle l'a fait parce qu'elle était sous emprise, c'est pas quelque chose qui l'enchantait. Mmh. Et puis les autres ont été filmés à leur
insu. Et derrière, elles ont été totalement dépossédées. Écoutez, Charlotte, il y a des procès qui ont été renvoyés, il y a des procès qui n'ont toujours pas lieu. Celui de Charlotte a eu lieu.
Au final, il est en liberté. Les dommages et intérêts que j'ai, ils suffisent à peine à rembourser mes frais d'avocat, donc c'est pas moi que ça coûte de l'argent. J'ai pas eu d'excuses, j'ai rien eu, aucune explication, rien. Naïvement, j'avais l'espoir de me dire qu'il se rendait compte de ce qu'il avait fait, que ça lui avait fait un choc et qu'il s'était vraiment remis en cause, remis en question. Et là, de voir qu'il en avait strictement rien à faire, je me dis ça valait pas vraiment la peine de se battre plus que ça, en fait. Enfin, ça débouche sur un désert, quoi.
Et au fond, Émilie Graal, dans votre enquête, c'est le désert sur tous les cas. Sur tous les dossiers que vous avez ouverts.
Oui, on va dire que Charlotte est la personne qui témoigne, qui a eu donc son procès. L'auteur a écopé donc de 6 mois d'assignation à résidence et voilà une somme assez minime de remboursement de frais d'avocat des victimes, à peine d'ailleurs. Les autres sont toujours en attente de procès, donc il y a même l'affaire de Sophia qui date d'il y a 8 ans. Et elle attend toujours de savoir si le procès va avoir lieu et s'il ne va pas être renvoyé.
Sophia a d'abord porté plainte classée sans suite. Il a fallu qu'elle se constitue partie civile pour rouvrir le dossier. Samira voit son procès renvoyé pendant 1 an. Donc c'est encore 1 an à vivre dans la honte, dans l'attente, dans la peur qu'un employeur google son nom et la retrouve sur tous les sites d'escort girl et de prostitution. Et puis il y a la maman de la petite Maëlle qui s'est suicidée. Et évidemment, l'agresseur de Maëlle, qui avait diffusé des photos d'elle nue au milieu d'actes sexuels,
était mineur,
Marie-Christine Gambard. Donc en réalité, ça n'ira pas très loin.
Ah ben non, ça n'ira pas très loin. C'est quelques heures de travaux d'intérêt généraux. J'ai eu Zara au téléphone, parce que depuis que le film...
Zara, c'est la maman.
Zara, c'est la maman de Maëlle, depuis que le film
est d'une force,
tourné,
cette femme.
Ah ben, je trouve, et d'une dignité,
incroyable.
Zara...
Ouais.
Et son message, enfin son témoignage est extrêmement important. Comment imaginer une seconde que votre fille, je veux dire, puisse vivre une histoire d'amour qui tourne au cauchemar à l'âge de 14 ans? Et en plus, je pense qu'à travers son témoignage, on voit bien dans quel enfermement se retrouvent ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés au fond que l'univers numérique, les parents peuvent pas y avoir accès. Et je pense que ça,
c'est... La petite n'a rien dit. Ouais, elle s'est suicidée dans sa chambre, elle n'a rien dit.
Ses copines d'école n'ont rien dit. C'est ce que me disait Zara. Comment se fait-il que ses camarades de classe ne sont pas venus me prévenir? Tout le monde était au courant dans son collège.
Alors, il y a le 30-18, justement, l'homme qui anime cette association est absolument remarquable. Ses interventions dans le documentaire sont absolument remarquables. Il y a le 30-18 où on écoute, où on ne juge pas, où personne n'est jugé. Et ça, il insiste beaucoup pour le dire. Pas de leçon de morale, on peut tout raconter au 30-18. Et c'est quelque chose qui revient sans cesse dans le documentaire. On fait des captures d'écran, Émilie Graal. On fait des captures d'écran. C'est hyper important d'avoir des traces. Parce que quand on passe par le 30-18, on peut signaler aux réseaux sociaux et on peut endiguer en réalité la vague, Émilie Graal.
Oui, exactement. On va dire que la première étape, c'est bien sûr de faire des captures d'écran. Mais je dirais même qu'avant ça, faire des captures d'écran, mais j'ai envie de dire que l'arme la plus forte pour les victimes, c'est de parler. En fait, c'est ça le gros problème des victimes de pornodivulgation aujourd'hui, c'est que la honte est tellement grande et la culpabilisation des victimes est tellement grande qu'on ne parle pas. On se tait et peu importe nos âges, voilà, que ce soit des mineurs ou des adultes, il faut tout de suite parler et chercher de l'aide. Parce que sinon, on s'effondre.
Oui, oui. Il y a donc des recours, hein. Le 30-18, la capture d'écran et le signalement aux plateformes, ça marche. En tout cas, ça endigue le phénomène. Merci beaucoup Marie-Christine Gambard et Émilie Graal d'être venues au micro de l'Instant M. Ennemi intime, France 2, demain soir à 22h40, juste après une fiction. 22h50, oui, allez, si à 22h40, oui. On est déjà devant le poste, comme ça on rattrape pas le début.
La fiction à vous.
Voilà. Voilà, et la fiction qui s'appelle Mise à nu, et donc qui romance l'histoire de
Sauvia. Une fois de plus, merci au service public de permettre à ce que des soirées comme ça contre le cyberharcèlement existent.
Et si Sauvia nous écoute, voilà. Sauvia, vous êtes très belle, vous êtes très lumineuse et vous êtes très courageuse. Voilà, ça c'est mon message personnel.